Honneur et patrie, voici le général de Gaulle.
8 mai 1945. Il est 15h. Charles de Gaulle s'exprime à la radio. Il a remporté son pari.
La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France.
Quelques jours plus tôt, dans son bunker à Berlin, Adolf Hitler s'est donné la mort et l'Allemagne nazie s'est effondrée.
L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est.
Ça y est, c'est fini.
Les armées alliées ont donc libéré l'Europe du joug nazi, assistées dans leur tâche, ne l'oublions pas, par les forces de la résistance française.
Moi, je n'aime pas les cambrioleurs et les pillards. Et il y avait dans mon pays une bande de cambrioleurs et de pillards, c'était l'armée nazie. Et puis j'aime encore moins les gens qui aident les cambrioleurs et les pillards, et c'était le gouvernement de Vichy.
Nous en sommes au printemps 1945.
La reddition inconditionnelle de l'Allemagne vient d'être proclamée.
Et la capitulation de l'armée allemande le 7 mai dans la ville de Reims signe la fin de la guerre en Europe.
À minuit ce soir, la guerre est finie.
Une liesse populaire s'empare du vieux continent. Mais sachez que nos cinq femmes ont vécu ce basculement historique de manière très différente. Déportée, Geneviève de Gaulle et Mila Racine naviguent entre la vie et la mort dans une Allemagne crépusculaire et dévastée. Quant à Lucie Aubrac, Simone Mathieu et René Davelli, elles sont à Paris, où elles aspirent à un monde meilleur. Mais l'après-guerre s'avère pour elles trois un peu plus compliqué que prévu. La fin des combats, avec ses espoirs certes, mais aussi avec ses difficultés à retrouver une vie normale, c'est la trame de cet avant-dernier épisode.
Ce que la Française supporte moins que tout autre, c'est l'ennemi chez elle. C'est de voir chez elle celui qu'elle n'y a pas invité. On ne s'impose pas chez une femme française.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Les Résistantes. 9e épisode sur un champ de ruines.
J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre.
Voyons, madame, vous, qu'est-ce que vous faisiez ?
Moi, je distribuais des tracts et je fabriquais des fausses cartes d'identité.
J'ai fait des transmissions de consignes pour parachutage, des organisations maquis.
Vous avez posé vous-même les pinces plastiques ?
Avec des détonateurs que j'avais fabriqués moi-même parce qu'on en manquait.
Quelle était la raison qui vous animait ?
C'était pour sauver son pays.
Et dimitte nobis debita nostra.
Le récit commence le 24 décembre 1944 à Erstein, un petit village au sud de Strasbourg, en bordure du Rhin. C'est là, dans l'église d'Erstein, que le général de Gaulle assiste à la messe de minuit. Sa présence en Alsace, si près du front, annonce la fin de la guerre. Mais au même moment, sa nièce, Geneviève de Gaulle, passe, elle, son réveillon dans un cachot au camp de Ravensbrück. Et en 1995, au micro de France Culture, Geneviève se souvenait très bien de cette nuit de Noël 1944 dans son bunker.
Le commandant du camp avait généreusement gracié les prisonnières punies du bunker. Mais à condition qu'elles reçoivent auparavant leur peine de schlag, c'est-à-dire 25, 50, 75 coups de schlag. Et alors, cette nuit du 24 au 25 décembre, c'était une nuit de gémissement. On les ramenait dans leur cellule. Elles pleuraient, elles gémissaient. J'entends toute la cellule était pleine de cris. Et ça finit par s'arrêter au milieu de la nuit et j'ai entendu quelqu'un chanter. Avec une jolie voix pure, comme ça, le Stille Nacht, vous savez, Stille Nacht, de Noël.
placé à l'isolement sur ordre d'Himmler, qui avait l'espoir de négocier une quelconque mansuétude avec le chef de la France libre, Geneviève de Gaulle voit passer le rude hiver 1945 depuis sa cellule. Mais sa santé lui joue des tours.
En février 1945, deux hommes en civil entrent dans sa cellule et viennent l'ausculter. Ils vont même lui faire faire une radio et découvrir qu'elle a une pleurésie qui est mal soignée et faire en sorte qu'elle sorte de ce cachot.
L'historienne Frédérique Naud-Dufour.
Une semaine plus tard, elle est conduite au bureau de la Gestapo du camp. Et là aussi, c'est une scène digne d'un film parce que cette femme qui vient de passer quand même plusieurs mois dans le noir complet, dans la compagnie des cancrelats.
J'avais des cancrelats, c'était mes amis, sauf qu'ils voulaient me prendre ma ration de pain et que moi je ne voulais pas. Enfin, je leur en abandonnais un tout petit peu, je leur faisais faire des courses de cancrelats.
À essayer de nourrir sa pensée de poèmes, de souvenirs de mélodies de Brahms qu'elle écoutait avec son père, de rares échanges avec la déportée témoin de Jéhovah qui lui apporte à manger. Elle retombe dans un monde absolument normal. Il y a une interprète qui est là, qui traduit les propos. Et cette interprète lui sourit, elle l'appelle par son prénom, ce qui ne lui est pas arrivé depuis des mois, puisqu'on l'appelait par son numéro. Et encore plus hallucinant, l'interprète lui demande de lui écrire quelque chose en français, comme une dédicace. Et la pauvre, elle est tellement prise au dépourvu qu'elle ne sait absolument pas quoi écrire. Et elle se remémore les paroles d'une chanson de Lucienne Boyer qui sont... Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres. À l'issue de cet entretien dans le bureau, elle est libérée, on lui donne une nouvelle tenue, on lui donne des tennis blanches, c'est un peu surréaliste, hein, on est en plein hiver, il y a de la neige, et elle va partir sous la garde de deux gardiennes SS, d'ailleurs dont une est sarroise, hein, la région où elle a vécu Geneviève quand elle était petite fille. Elle part avec une autre déportée, qui est une américaine, Virginia Albert Lake. Et elles vont partir dans un espèce de périple, dans une Allemagne incendiée, dans une Allemagne bombardée, où les trains n'ont plus de voie pour continuer à avancer. Elles vont passer par Berlin, ensuite Munich, aller à Ulm, revenir vers Stuttgart, faire des allers-retours, jusqu'à être internées dans un camp qui est à Liebenau, un camp où les nazis gardent des internées anglo-américaines. Et c'est seulement après plusieurs semaines dans ce camp que le 20 avril, elle est prise en charge par la Croix-Rouge et conduite jusqu'en Suisse, qui est le pays où travaille son père en tant que consul de France en Suisse.
À la fin du mois d'avril 1945, très affaiblie, Geneviève de Gaulle est enfin libre, réfugiée en Suisse. C'est un tout autre destin qui attend Mila Racine, notre deuxième résistante, déportée elle aussi au camp de Ravensbrück. Au cœur de cette Allemagne apocalyptique, à quoi ressemble l'hiver 1945 pour Mila Racine?
Alors, le 2 mars, un convoi de déportés dites « nuit et brouillard » doit quitter le camp, vers une destination évidemment inconnue.
Les convois « nuit et brouillard » ont été mis en place par les nazis pour faire disparaître dans le plus grand secret leurs opposants politiques.
La rumeur court que c'est un mauvais convoi.
Zoé Grimbert est historienne.
Mais il se trouve qu'une partie des amis du groupe de Mila, donc elles sont 7 jeunes femmes maintenant à être proches, une partie de ce groupe fait partie du convoi. Mila et Denise Jacob décident de faire partie de ce convoi sans savoir évidemment où elles vont.
Témoignage de Denise Vernet, née Jacob, 1970. Nous avions quitté Ravensbrück le 2 mars 1945, en un convoi mêlé. Et nous ne savions pas pour quelle destination. Mais nous étions ensemble, décidés à rester ensemble, quoi qu'il en soit.
Elles sont embarquées dans un train qui roule 5 jours, qui traverse l'Allemagne. Elles voient Berlin, elles voient ce que les bombardements alliés ont laissé comme trace à Berlin. Et elles arrivent finalement à Mauthausen, en Autriche, le 7 mars 1945, et sont mises en quarantaine, là aussi, pendant 2 semaines. En théorie, ce convoi nuit et brouillard était voué à l'extermination.
Vite, On doit aller à la Belle Place. Il faut faire des listes. Il va y avoir une sélection.
Mais le 20 mars, une partie des femmes arrivées à Mauthausen, donc 500 prisonnières, sont réunies sur l'esplanade du camp. Et les sept amies sont séparées. À ce moment-là, ce qui est important dans la suite de l'histoire. Et ces groupes sont envoyés comme commandos de travail à Amstetten, où on leur donne des pioches, des pelles, et elles doivent en fait, avec des hommes qui sont déjà sur place, réparer des voies ferrées qui ont été abîmées par des bombardements alliés. Et à un moment donné, on entend des avions alliés qui survolent la zone et on pressent un bombardement.
Les premières bombes n'entamèrent pas notre bonne humeur. Nous essayons de calmer la terreur de quelques Ukrainiennes traumatisées par de récentes épreuves de bombardement. Et nous nous sommes couchés près d'elles, sous les arbres encore gris, tout au long de la terre encore froide. Cinq vagues d'avions lâchèrent leur chargement tout près. Sur la ville, sur la gare, sur la voie, la même où nous étions quelques minutes avant. À la dernière vague, les bombes éclatent plus près encore.
Et effectivement, un bombardement allié fait 36 morts parmi les prisonnières qui travaillaient à la réfection de la voie ferrée. Et parmi ces 36 morts, il y a les 5 amies, dont Mila, qui faisait partie des prisonnières touchées. Et donc elle meurt, Mila meurt le 20 mars 1945, quelques semaines avant la libération de Mauthausen, sous un bombardement allié.
Témoignage de Sacha Racine, sœur de Mila, 1997.
Elle était une forte tête, alors on l'a... Vers la fin du camp, on l'a envoyé travailler sur les voies de chemin de fer. Et vers la fin de la guerre, quand on envoyait quelqu'un travailler sur les Américains, les Anglais bombardaient. C'était pour les tuer. Et elle a été tuée sous un... C'est idiot d'être tuée par un bombardement anglais.
À la suite de ce bombardement, le groupe des sept amis est décimé. Il reste Violette et Denise Jacob qui se font la promesse d'annoncer elles-mêmes la mort de leurs amis à leur famille à leur retour en France.
Mon père est mort à la libération, peu de temps après la libération, en tenant la photo de ma sœur dans la main, parce qu'on venait d'apprendre qu'elle était morte.
Et... Comment vous avez appris ça?
Alors, c'était affreux. À Paris, à la Libération, il faisait froid, il faisait faim. Et surtout, tous les appartements où on habitait, il n'y avait rien, personne, on n'avait plus d'appartement, on n'avait rien. Moi, j'avais une petite chambre glacée. Et brusquement, on tape chez moi et j'ai un cousin qui arrive et qui me dit « Sacha, je suis venu t'apporter une très triste nouvelle, ta sœur a été tuée. » Alors, et je devais, moi, comme mission, aller à Aix-les-Bains, le dire à mes parents. Et quand j'ai appris à mes parents que ma sœur était morte, ma mère a essayé de se casser la tête contre les murs. Elle voulait. Elle voulait se tuer. Et puis voilà.
Mila Racine, un destin assez particulier. Zoé Grimbert, c'est une jeune femme née en Russie, à Moscou, au tout début des années 20. Elle vient en France, éducation française. Elle ne sera pas française, elle n'a pas eu le temps de devenir française. Elle va rester russe, mais ce qui montre quand même aussi que la résistance, puisque Mila Racine était une résistante, a été aussi l'affaire de populations étrangères. C'est important de le dire, c'est aussi une population étrangère qui adhère à des valeurs, qu'on pourrait peut-être dire républicaines, en tout cas universelles. Ça a été aussi l'affaire des étrangers.
la résistance a été l'affaire de beaucoup d'étrangers en France, naturalisés ou non, mais en tout cas des immigrés, beaucoup d'immigrés. Alors souvent, effectivement, ce qui vient à l'esprit, c'est d'abord les immigrés dans la résistance communiste. On pense à la main-d'œuvre immigrée, puis au FTP Moy. Mais ce n'est pas tout. Il y avait des étrangers dans des mouvements de résistance français. Il y avait aussi donc des juifs parmi ces étrangers dans les mouvements de résistance et les réseaux français. Et il y a aussi des groupes de résistance spécifiquement juifs, constitués de juifs français ou non. Et parmi eux, il y avait beaucoup d'étrangers. Et dans le cas de Mila et des jeunes sionistes, je pense que ce qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que ils rêvaient bien sûr d'un État juif en Palestine. C'était un de leurs objectifs. Mais ils voulaient participer à part entière à la libération de la France et voir la République française renaître. C'était le pays qui les avait accueillis, un pays dont ils parlaient la langue, dont ils aimaient la culture. Ils lisaient la littérature française et ils souhaitaient participer à la libération de ce pays. Donc, leur engagement sioniste n'est absolument pas incompatible avec la défense d'un pays comme la France et un combat patriotique.
Mila Racine est donc morte à 26 ans, le 20 mars 1945, 6 semaines à peine avant la chute du Troisième Reich. Et elle n'a donc pas pu faire partie des survivants, accueillis à leur retour de déportation par le préfet de la Seine, Marcel Flouret.
Parisiennes, Parisiens, au moment où les listes de nos rapatriés s'allongent d'heure en heure, comment notre pensée n'irait-elle pas vers ceux qui, après de longs mois, de longues années d'exil, viennent d'échapper, grâce à l'avance foudroyante des Alliés, aux rigueurs des camps et des usines, et goûtent la joie de la patrie retrouvée. Je me fais l'interprète ému de Paris et du département de la Seine pour leur dire notre joie immense de les revoir parmi nous.
Contrairement à Mila Racine, Geneviève de Gaulle a connu la joie du retour après la déportation.
Moi, j'ai eu ce qu'on peut appeler un bon retour. J'ai retrouvé mes parents, j'ai trouvé l'amour, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, enfin, j'ai eu beaucoup de choses qui m'ont aidée.
Cependant, cette joie fut pour le moins tempérée. Car en vérité, il n'était pas simple d'être survivante.
Les survivants appartiennent plus ou moins encore toujours, même maintenant, à celles qui n'ont pas survécu.
Geneviève de Gaulle, 1995.
Pourquoi doivent-nous survécu alors qu'elles n'ont pas vécu? C'est vrai, ça reste au-dessus de l'interrogation. Alors on ne passe pas son temps à se la poser quand on a une vie à construire, qu'on a une famille à élever, etc. Mais ça revient quand même par moments.
Après un passage par la Suisse, Geneviève de Gaulle retrouve enfin Paris au printemps 1945. Et à la mi-mai, après 5 ans de séparation, elle retrouve son oncle Charles, l'homme du 18 juin.
Ces retrouvailles s'opèrent extrêmement rapidement. Elles sont une espèce de nécessité pour Geneviève. Elle a une hâte incroyable à aller retrouver son oncle à Paris. Et elle va passer le premier mois de sa convalescence, si l'on peut dire, dans la villa que ce dernier occupe en tant que chef du gouvernement provisoire à Neuilly.
Frédéric Naudufour.
C'est un moment déterminant à plusieurs égards. Ce sont d'abord deux personnalités qui s'apprécient et qui s'aiment, qui se retrouvent. C'est la rencontre de deux expériences de la guerre, deux expériences très différentes. Pour De Gaulle, l'expérience de la France libre, hein, cette espèce d'épopée qu'il a construite et puis qu'ensuite il va écrire surtout. Et du côté de Geneviève, l'expérience concentrationnaire, disons une même lutte contre le nazisme, une même détermination, mais qui ont pris deux formes très différentes. C'est déterminant parce que c'est par Geneviève de Gaulle que le général découvre ce que c'est que l'expérience concentrationnaire. Elle lui parle énormément, elle le dit elle-même, je lui ai énormément parlé. C'est à peu près la seule personne à qui j'en ai parlé comme ça. Et elle parle, lors de ces échanges, d'une expérience de grande intimité, parce qu'ils sont tous les deux, parce qu'elle lui confie des choses qu'elle ne confie à personne, notamment dans les choses très violentes, hein, dont elle a été témoin. Elle dit ces mots, Il était très attentif, très respectueux de l'histoire de l'autre. Et ça, c'est important parce que pour être écouté, il faut quand même qu'en face, l'auditoire soit empathique et qu'il soit disposé à écouter, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de monde dans la France libérée. Et on peut quand même souligner que De Gaulle avait de nombreux sujets de préoccupation à l'époque en tant que chef de gouvernement provisoire, mais qu'il a écouté cette nièce avec une grande attention. Et il a tiré du récit de Geneviève un parallèle avec sa propre guerre mondiale à lui, la Première Guerre mondiale. Il a même eu les larmes aux yeux, selon Geneviève, et il lui a dit « Cela me rappelle la Première Guerre mondiale, cette guerre qui m'a laminé l'âme ». J'ai toujours trouvé cette expression absolument magnifique et qui pourrait s'appliquer très bien à ce que vient de vivre Geneviève en camp de concentration. Et ces deux personnes qui s'estiment beaucoup vont avoir des sujets de conversation importants sur des sujets de la plus haute sensibilité, par exemple sur la grâce. De Gaulle, à l'époque, est celui qui va accorder les grâces au moment de l'épuration. Et un jour, il explique à Geneviève de Gaulle qu'il gracie par principe systématiquement les femmes. Et Geneviève se met presque en colère. Elle lui dit « Mais enfin, mon oncle, c'est pas normal. Vous ne devriez pas le faire. Après tout, nous avons résisté comme les hommes. Sous-entendu, les femmes qui ont fait des actes de collaboration aussi graves que les hommes méritent le même sort. » Ils vont parler aussi de la réconciliation franco-allemande à laquelle De Gaulle est favorable tout de suite et de manière assez rapide, ce qui pour Geneviève, tout juste rescapée de Ravensbrück, est un petit peu difficile à envisager, même si elle y est prête.
Il allait faire son voyage en Allemagne. Et il m'a demandé comment je ressentais ça. C'était fort qu'il jugeait nécessaire d'une réconciliation franco-allemande. Il m'a dit « Comment tu ressens ça, toi ?» Alors je lui ai dit « Écoutez, pas bien, hein, vous savez, c'est dur à passer. En tout cas, si quelqu'un peut nous le faire avaler, c'est, y a que vous. »
Et puis, il va l'inviter à être présente au moment du grand discours qu'il prononce lors de la capitulation allemande à l'Assemblée consultative. Donc il y a vraiment il se passe là en un mois beaucoup de choses entre Charles et Geneviève de Gaulle.
La victoire est aux dimensions de la guerre.
Charles de Gaulle devant l'Assemblée consultative, 15 mai 1945.
L'Allemagne avait voulu que la lutte fut politiquement, matériellement, moralement, une lutte totale. Il fallait donc que la victoire fût une victoire totale. Cela est fait en tant qu'État, en tant que puissance, en tant que doctrine. Le Reich allemand est complètement détruit.
J'avais de grands desseins pour le Troisième Reich, pour notre nation et pour le reste du monde. Nous étions sur le point de dominer le monde entier. Trop tard. Je vais m'en aller sans aucun regret. Un court instant suffira. Et ensuite, la paix éternelle.
Hitler s'est suicidé, le Reich allemand est détruit, et de Cherbourg à Stalingrad, le vieux continent est un champ de ruines. Alors, à l'automne 1945, il faut penser à reconstruire, mais il faut d'abord punir les criminels.
Nuremberg est aujourd'hui une ville ruinée. Nuremberg était l'orgueil du Troisième Reich. Dans son stade immense, Hitler croyait faire trembler le monde. Mais Nuremberg est aujourd'hui la ville des juges. Dans ce bâtiment resté debout, s'est ouvert le procès géant de ceux qui ont préparé le massacre, voulu la mort, donné les ordres. La France siège à ce tribunal où les nations libérées jugeront les responsables de 5 années de crimes.
Attention, the International Military Tribunal will now enter.
Le procès de Nuremberg, intenté par les Alliés contre 24 dignitaires nazis, s'ouvre en Bavière le 20 novembre 1945. Et parmi les témoins du procès, une résistante française, Marie-Claude Vaillant-Couturier. Née en 1912, résistante communiste, Marie-Claude Vaillant-Couturier fut déportée à Auschwitz-Birkenau en 1943 avant d'être transférée au camp de Ravensbrück comme Geneviève de Gaulle et Mila Racine. Écoutez bien son intervention devant la cour de Nuremberg. Nous avons choisi d'en passer un long extrait, tant la force et la dignité de son témoignage nous bouleversent. Nous sommes le 28 janvier 1946, ses souvenirs sont frais. À l'époque, elle a 34 ans.
Nous sommes arrivés à Auschwitz au petit jour. On a déplombé nos wagons et on nous a fait sortir à coups de crosse pour nous conduire au camp de Birkenau, qui est une dépendance du camp d'Auschwitz. Nous avons fait le trajet en tirant nos bagages. En passant le porche, nous sentions tellement qu'il y avait peu de chances d'en ressortir, car nous avions déjà rencontré les colonnes squelettiques qui se dirigeaient au travail, qu'en passant le porche, nous avons chanté la Marseillaise pour nous donner du courage. Notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leur jeune fille, puisqu'elle entrait dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort.
Tous les accusés ont plaidé non coupables.
Ich bekenne mich nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nicht schuldig.
Nein.
12 d'entre eux ont été condamnés à mort par pendaison, dont Hermann Göring, qui se suicide avant l'exécution. 6 autres ont été condamnés à des peines de prison, 3 ont été acquittés et 3 autres n'ont pu être jugés. Ce procès de Nuremberg fait date, car il donne naissance à la notion de crime contre l'humanité. Et il constitue aussi une rupture dans notre histoire politique, car il contient en lui un basculement. De quoi s'agit-il ?
Il existe dans cette histoire effectivement un vrai basculement. Pendant très longtemps, on s'est quand même habitué à penser que la monstruosité, elle était toujours du côté de la désobéissance.
Frédéric Gros est philosophe.
On avait même, je sais pas, construit des catégories psychiatriques comme celle de l'incorrigible. Voilà, ceux qui peuvent jamais obéir, qui n'y arrivent pas, c'est vraiment la lie de la société, c'est des gens dangereux, ce sont des monstres.
C'est le hors-la-loi.
C'est le hors-la-loi, c'est le hors-la-loi. Et effectivement, l'aventure, la tragédie totalitaire nous a confrontés à une nouvelle catégorie de monstres, à savoir des monstres d'obéissance. C'est-à-dire des gens qui n'ont rien d'autre à opposer quand on les interroge sur le fait qu'ils ont commis un certain nombre de monstruosités que le fait « mais enfin, je n'y peux rien, ce sont les ordres qu'on m'a donnés ». Oui, ce sont les ordres qu'on m'a donnés. Et alors, je ne faisais qu'obéir. Ce moment où, effectivement, la docilité, c'est le syndrome de l'enfant sage, si vous voulez. Il y a dans la docilité de chacun, il y a dans les capacités de chacun à se soumettre aux ordres, une monstruosité spécifique. Et c'est Primo Levi lui-même qui reconnaissait que des monstres sadiques, il en existe. Et ils sont terriblement dangereux. Mais au fond, c'est assez rare. En revanche, le nombre de ceux qui peuvent devenir, dans des régimes politiques ou dans des environnements politiques déterminés, des monstres d'obéissance, ça, disait Primo Levi, eh bien, il y en a légion. Il y en a légion. Et donc, c'est très, très dangereux aussi.
Si on juge des monstres d'obéissance à Nuremberg, sachez qu'à Paris, en octobre 1945, on juge aussi un homme qui a été d'une fidélité sans faille aux ordres de Philippe Pétain.
Dans une salle du palais de justice de Paris, le glaive de la loi va trancher. Trancher des têtes. Car pour un Darnan qu'on juge, il ne peut y avoir d'autre sentence. Devant le président Montgibaud, devant la cour, devant les jurés, Darnan pourra verser des larmes. Elles n'effaceront pas le sang des maquisards assassinés, des résistants torturés, des patriotes fusillés, inscrits à l'actif du déménageur de Nice. La cour n'a fait que confirmer l'arrêt du peuple de France, la mort.
Alors, dans cette France libérée, que juge-t-on avec le procès de Joseph Darnan ?
Vous allez payer pour tous ceux qui sont morts à cause de vous ! À mort les collabos !
On juge l'un des hommes les plus détestés de France à l'époque avec Pierre Laval. On juge le roi des criminels aux yeux des Français, tel qu'il est présenté par la résistance française.
Éric Allary, historien et biographe de Joseph Darnan.
On juge surtout celui qui a commis l'impardonnable, c'est-à-dire qu'il a trahi ses idéaux, c'est-à-dire qu'il est un glorieux soldat de la Première Guerre mondiale et même de la bataille de France de mai-juin 1940, et qui, un jour, a accepté de suivre son idole, tout en étant lui-même patron d'une entreprise de transport à Nice. Son idole, Philippe Pétain, qui avait une résidence secondaire à côté de Nice, à Villeneuve-Loubet. Celui qui, dans l'entre-deux-guerres, ne comprend pas pourquoi lui, qui a été décoré par Pétain en personne, n'est pas ce héros qu'on a présenté à la presse en 1918. En fait, lui, il veut être un héros, mais qu'est-ce que c'est qu'être un héros? Ça n'est pas une fonction. On juge celui qui fait la une de match en 1940 parce qu'il a ramené sur son dos son officier supérieur alors qu'il est déjà décédé pendant des combats qui ont lieu pendant la drôle de guerre, parce qu'on oublie qu'il y a eu des combats pendant la drôle de guerre. On juge celui qui est devenu Waffen-SS, officier de la Waffen-SS en 1943, mais qui, quelques semaines avant, a essayé de rallier la France libre en passant par Groussard et par Jean Moulin. Et on juge celui qui avait simplement un certificat d'études, qui était allé en seconde et qui devient créateur de la Ligue des combattants français, créateur de la milice, puis qui deviendra ministre de l'Intérieur en 1944, dans la période la pire de la collaboration, qui sera Sigmaringen, qui croisera Louis-Ferdinand Céline, et qui sera capturé par les Anglais, qui écrira au général de Gaulle, après sa condamnation à mort en octobre 1945. Darnan lui dit « Je ne demande pas la grâce pour moi, je demande la grâce pour mes hommes. Il reste toujours le chef. » Et de Gaulle lui répond, et lui dit « Je ne peux pas vous gracier. Je pourrais peut-être faire quelque chose pour vos hommes, mais pas pour vous. Vous incarnez le tueur de résistants, le tueur de communistes, le tueur de juifs. Vous avez été sans pitié, vous êtes entré dans la Waffen-SS, vous le germanophobe primaire. »
Je m'engage sur l'honneur.
Joseph Darnan, 1943.
À servir la France et le maréchal Pétain, chef de la Légion.
La guerre est finie, l'épuration de la collaboration est en cours et la France républicaine se dote d'un nouveau pacte social, fondé sur le programme du CNR, le Conseil National de la Résistance. Quant aux résistants eux-mêmes, ils doivent désormais réapprendre à vivre normalement. Alors, comment se passe à l'automne 1945 ce retour à la normalité pour Lucie Aubrac, redevenue parisienne depuis un an?
Alors d'abord, Lucie Aubrac était membre de l'Assemblée consultative qui s'est installée à Paris en septembre 1944. Et puis ensuite, elle a cessé d'être membre de cette Assemblée.
Laurent Douzou, historien.
Et elle a créé un journal qui s'appelait Privilège et qui était un journal totalement hors norme, parce que c'était un journal qui avait des ambitions très élevées. qui traitait de la culture, du théâtre, de la littérature, qui faisait appel à des plumes prestigieuses. Alors ça a été un fiasco, parce que le journal ne s'est pas vendu, et puis ensuite Léo Braque ont dû pendant des années éponger le déficit qu'ils avaient laissé. Mais c'est intéressant parce que ça montre là encore une espèce de dimension utopique de Lucie, ou peut-être le fait qu'elle pensait qu'à l'issue de l'épisode de la Résistance, un regard différent était possible sur les femmes, sur ce qui les intéressait, sur ce qu'on pouvait leur proposer.
La presse de l'occupation avait été tellement écœurante qu'il fallait faire une presse libre.
Lucie Aubrac, 1992.
Et que cette presse libre, on avait même décidé dans nos oukases que seuls les gens qui avaient été fondateurs de mouvements pourraient fonder un journal. C'est comme ça que moi, j'ai fondé un journal de femmes qui s'est cassé la figure très vite. Ça s'appelait Privilège des femmes, c'était pas un nom très... Mais ça avait beaucoup de tenue, mais il y a eu 13 numéros et puis ça a été tout.
Parallèlement à la création de ce journal, les époux Aubrac, Lucie et Raymond, sont également tentés par une aventure politique après la libération. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors après la guerre, les époux Braque se rapprochent du Parti communiste. C'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai. Pourquoi ? Parce qu'on sait que Lucie Aubrac a demandé à intégrer le Parti communiste. Et on a, dans les archives du Parti communiste, ce qu'on appelle une biographie qu'elle remplit en retraçant son parcours et en disant qu'elle veut adhérer au Parti. Ce qui est très frappant, c'est que le parti s'est montré très circonspect vis-à-vis de cette demande et que cette demande a traîné en longueur au point que finalement, elle n'a pas eu de suite. Alors on sait que Lucie a été candidate pour le Parti communiste en Saône-et-Loire, mais à une position qui n'était pas éligible. Et donc on a l'impression à la fois qu'il y a une tentative de rapprochement, mais que le parti se méfie d'elle. Et ça, je crois que pour le comprendre, faut remonter aux années 30. Elle était, j'ai dit, une militante hors pair des jeunesses communistes, saluée comme telle, mais elle était réputée incontrôlable. Et puis, elle avait aussi un côté, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports secrets du Parti communiste, garçon manqué, qui ne leur plaisait pas du tout. Donc, ils avaient l'impression qu'à la fois, elle pouvait être un allié précieux, mais que on pouvait pas faire fond sur elle. Donc, on peut dire qu'ils ont eu des relations qui étaient... marquée d'une grande méfiance. Et même si elle était dans l'orbite communiste, elle a fait partie du mouvement de la paix, donc elle a clairement milité dans l'orbite communiste, elle n'était plus militante du parti. Quant à son mari, il était très proche du parti, mais apparemment pas encarté.
Lucie Aubrac n'est donc pas intégrée au Parti communiste, parti méfiant à l'égard des âmes libres. Mais elle décide néanmoins de poursuivre son chemin politique.
Si bien qu'après-guerre, eh ben, mon combat, ça a été d'abord pour l'Indochine. Nous avons reçu Ho Chi Minh chez nous et nous avons considéré que la libération du Vietnam faisait partie de notre combat post-résistance.
La sympathie dont j'ai été en Corée durant mon séjour en France m'est allée au plus profond du cœur.
Ho Chi Minh, septembre 1946.
Les témoignages de sympathie que la France a prodigué au Vietnam dans la personne de son président ont contribué efficacement à cimenter l'amitié entre nos deux peuples.
Alors, les époux Braque sont anticolonialistes, ça fait pas l'ombre d'un doute. Ils le sont, à mon avis, en raison de leur parcours résistant, mais c'est pas une explication suffisante puisque beaucoup de résistants seront, eux, favorables à la continuation de la colonisation. Donc, ils le sont, à mon avis, par sensibilité propre, chacun, en pensant que la colonisation n'est pas quelque chose qu'on peut soutenir moralement, éthiquement, politiquement. Donc, ils vont se dissocier très fermement de la guerre d'Indochine, par exemple, très très fermement. En revanche, au moment de la guerre d'Algérie, ils ne seront plus en France et leur action va se déployer ailleurs, au Maroc notamment à partir de 1958, où Raymond Aubrac est conseiller du gouvernement marocain dans la suite de la décolonisation, c'est-à-dire il met la main à la pâte pour faciliter la décolonisation, mais ils ne sont plus en France pour mener la lutte anticolonialiste en France métropolitaine.
Dans la continuité de sa jeunesse militante, et de son engagement résistant, Lucie Aubrac est sensible après-guerre au combat pour l'indépendance des pays colonisés. De son côté, Simone Mathieu, notre quatrième résistante, ancienne gloire du tennis français, devenue militaire pendant la guerre, est un peu perdue une fois la paix revenue.
Elle est populaire, mais l'armée de terre ne fait rien pour elle. Parce qu'en fait, l'armée de terre aurait pu faire d'elle une héroïne. Mais l'armée de terre ne lui rend pas un grand hommage. C'est la presse sportive, c'est la revue de son époux, Smatch, qu'elle reprendra en 1960 quand celui-ci décédera.
Éric Alary.
Alors Simone Mathieu donc est assez oubliée, la mémoire était injuste. Et si elle est oubliée, c'est parce que les gaullistes aussi l'oublient. L'armée de terre l'oublie, les gaullistes l'oublient dans les discours. Et chacun, communiste, gaulliste, crée à cette époque-là leurs icônes de la résistance. Elles n'entrent pas dans cette catégorie des héroïnes. Peut-être ne cherche-t-elle pas à le faire, mais même une femme qui le chercherait aurait beaucoup de difficultés. C'est vraiment les hommes qui choisissent qui sera l'icône ou pas de la résistance. Elle n'aime pas trop la lumière, même elle recherche la liberté. Et puis, elle est victime d'une mémoire collective masculine, hyper masculine.
Oubliée des gaullistes, Simone Mathieu renoue avec le tennis et devient en 1949 capitaine de l'équipe de France féminine. Et c'est à ce titre qu'elle est interviewée en 1959 par Robert Chapat pour la RTF. C'est sans doute l'unique son d'archives que nous possédons avec la voix de Simone Mathieu. Et c'est assez émouvant de l'entendre ici pour la première fois dans cet avant-dernier épisode.
Autour de notre micro maintenant, Madame Simone Mathieu, si c'était à refaire, repratiqueriez-vous le même sport? Simone Mathieu.
Oui, certainement, parce que j'en ai fait beaucoup d'autres, c'est celui que j'ai préféré.
Depuis quel âge pratiquez-vous le tennis?
11 ans.
Et vous pensez...
L'âge de 11 ans, il n'y a pas 11 ans.
Non, mais je ne vous en demande pas plus. Vous avez été maintes fois championne de France.
Oui, j'ai été 11 fois championne de France, 6 fois championne d'Angleterre, etc., etc. Championne de Californie, enfin j'ai pas mal de titres.
Et si c'était à refaire, donc en un mot, vous recommenceriez à faire
sûrement
du tennis, n'est-ce pas? Maintenant, conseillez-vous aux jeunes de 11 ans de pratiquer dès cet âge le tennis ou bien pensez-vous qu'elles peuvent encore attendre quelques années et penser beaucoup plus sérieusement aux études? Car on croit toujours, et j'ai l'impression d'ailleurs que c'est une règle générale, que les jeunes qui pensent à pratiquer un sport négligent pour autant leurs études.
Oh, ça dépend beaucoup desquels. Moi, j'ai été obligée de quitter mes études parce que je n'étais pas en bonne santé. Le sport m'a permis probablement d'être en meilleure santé, mais presque toutes mes joueuses que j'ai maintenant et qui sont les premières joueuses de France ont toutes passé leur bachot et passent des examens supplémentaires. Par conséquent, ça n'empêche rien. On peut faire les deux. Moi, j'estime qu'on peut très bien faire les deux. Et au contraire, c'est un dérivatif pour celles qui font beaucoup d'études d'aller faire du sport quand elles sortent de là. C'est la meilleure détente.
Alors, non seulement pas d'objection, mais au contraire, un encouragement.
Alors, Simone Mathieu, donc, est capitaine de l'équipe de France de tennis féminin de 1949 à 1960. Et c'est vrai qu'avec Simone Mathieu, on ne parle pas de star, on parle d'une équipe de France de tennis. Et régulièrement, avant la guerre, mais aussi après la guerre, quand elle est capitaine de l'équipe de France féminine, elle dit souvent aux journalistes « Vous êtes vraiment méchants avec les femmes en tennis ». Et elle dit « Mais pourquoi est-ce qu'on jouerait plus mal que les hommes ?»
Après-guerre, on l'ignore, mais la reconnaissance du tennis féminin en France doit beaucoup à la capitaine Simone Mathieu. Autre française libre, que devient René Davelli, l'accordéoniste patriote du Caire? De retour en France, elle s'est installée à Mantes-la-Jolie, en région parisienne. Elle s'y berce de ses souvenirs en relisant les lettres que lui ont adressées les soldats français blessés durant la guerre du désert.
Poème d'un soldat à René Davelli, Beyrouth, le 15 mai 1944. Bien chère et noble ambassadrice du patriotisme français, votre nom sera désormais celui de cette cantatrice qui fut déesse des armées.
Souvenez-vous, René Davelli rêvait de poursuivre son destin de vedette aux armées après la guerre. Mais là encore, le retour au temps de paix ne fut pas à la hauteur de ses espérances.
Alors, après-guerre, après cette immense déception de ne pas pouvoir continuer son parcours d'engagement, elle va se remarier.
L'historien Olivier Loube.
Alors, son premier mari, dont elle est divorcée depuis 1932, meurt en 1945. Mais elle va se marier en 1948 avec Roger Vallée. Il est inspecteur de la SACEM. Donc, qui a ce titre-là, est un homme qui allait dans les boîtes, dans les cabarets, etc., pour faire l'indispensable comptage des droits qui étaient dévolus aux uns et aux autres. Ils vont vivre dans un pavillon qui est un pavillon en Mantes-la-Jolie, où elle va démarrer une troisième existence, qui est celle de magnétiseuse. Elle dit elle-même, elle a dit dans sa famille en tout cas, que l'expérience de la guerre lui avait semblé révéler certains dons par rapport aux blessés, et que par ailleurs elle était sensible, on l'a vu avec son amitié avec cette cartomancienne du Creusot, qui l'a initiée probablement. Elle a cherché à passer d'ailleurs un diplôme dans ces domaines-là, et tous ceux qui l'ont connue à cette époque-là parlent de son charisme réel et de l'influence qu'elle pouvait avoir. Et donc elle ouvre à domicile, de façon non officielle, donc un cabinet de magnétiseuse à domicile. Et jusqu'à 1977, donc elle va vivre à Mantes-la-Jolie. Et c'est vraiment une femme, c'est une Française vraiment libre à sa façon.
Si jamais vous avez encore du mal au moment, venez me voir. Hein.
Merci, madame.
De rien. Personne suivante, si vous voulez.
Enfin, revenons à Geneviève de Gaulle. Et pour elle aussi, la période de l'après-guerre fut délicate, malgré les apparences. Elle réintègre un cadre de vie bourgeois et fonde une famille. Mais l'expérience traumatisante de la déportation donne une orientation nouvelle à sa vie.
Après la guerre, Geneviève de Gaulle reprend une vie qui semble normale. Elle va d'abord se soigner, se reposer, ensuite se marier avec Bernard Antonioz, éditeur d'art, hein, avec lequel elle partage des mêmes valeurs. Elle va devenir maman. Elle met 4 enfants au monde, hein, fin des années 40 et début des années 50.
Frédéric Naudufour.
Et elle commence à s'engager politiquement aux côtés du général de Gaulle dans le rassemblement du peuple français, dont elle va être une des oratrices. Et en même temps, cette vie, qui est donc un retour à la normale, est sans arrêt un retour sur le passé, et le passé concentrationnaire, puisqu'elle va s'engager beaucoup dans l'association que créent les femmes déportées, l'ADIR, pour aider les rescapés, pour réclamer des réparations pour les femmes de Ravensbrück qui ont été victimes d'expérimentations médicales, et pour rechercher les survivantes.
Et puis, ayez en tête que la déportation a suscité chez Geneviève de Gaulle des interrogations sur sa foi. C'est crucial pour comprendre la suite de sa vie. Et en 1946, elle dit ceci.
Sommes-nous exclus du monde des saints? Nous qui luttons dans la faim et la vermine, la crasse et la fatigue, nous les déchus, nous les pauvres gens. Et cette phrase, en réalité, explique comment elle a pu se reconnaître dans le visage des gens qui vivaient dans la misère qu'elle a rencontré en 1958 dans un bidonville à Noisy-le-Sec, et comment cette image a été un choc, puisqu'elle lui a rappelé l'espèce d'exclusion définitive des déportés du monde des vivants, et qui a été l'espèce de déclencheur de son engagement aux côtés du père Joseph Wresensky dans ce qui va devenir ATD Quart-Monde, dont elle sera la présidente pendant de nombreuses années. C'est vraiment cette volonté de redonner sa place à l'humain et de faire reconnaître l'égale dignité des hommes, non seulement dans la loi mais dans les faits, et puis de faire des hommes et des femmes eux-mêmes les acteurs de leur sortie de la misère.
Quand on a été soi-même atteint par un certain malheur de l'homme, par une certaine aussi humiliation de l'homme...
Geneviève de Gaulle, 1995.
On ne peut pas rester indifférent à l'humiliation ou au malheur des autres hommes. Je pense que ça creuse le cœur, on réalise mieux, on partage mieux... C'est ce qui m'est arrivé, c'est comme ça que je me suis retrouvée un jour aux côtés du père Joseph en 58, parce que je ne croyais pas que la misère existait comme je la voyais, je n'avais jamais imaginé ça. Et parce que je retrouvais dans les yeux d'hommes et de femmes que je croisais dans ce bidonville, quelque chose qui me rappelait cette terrible atonie du regard, espèce de désespérance comme ça.
Geneviève de Gaulle dans le journal Voix et Visage, en 1962. Je n'avais pas compris qu'il y avait à ce point une marginalisation d'une partie de la population. On était déjà en train de creuser un fossé entre les miséreux et nous. Je venais de découvrir un monde à part, un monde qui n'avait plus rien à voir avec celui que je fréquentais quotidiennement.
La misère est une indignité humaine pour elle. Elle est aussi, comme pour les déportés, une forme d'exclusion par rapport au reste de la société qui s'arrange très bien de ne pas voir les déportés, qui s'arrange très bien de ne pas voir les pauvres. Et pour elle, c'est la même lutte, oui, de dignité humaine. C'est-à-dire ce qu'il faut construire, c'est cette dignité et faire reconnaître la pauvreté comme une violation des droits humains. Ce qu'elle va réussir à faire par une grande loi d'orientation qu'elle portera avec le père Joseph Rzinski par le biais du Conseil économique et social et qui sera votée en 1998.
J'ai continué un engagement politique qui était celui contre la misère. Ça s'appelle quand même un engagement politique si on veut.
Et c'est vrai que cet engagement contre la misère va tenir toute la seconde partie de sa vie. C'est 40 ans d'engagement contre la misère, Frédéric Nodufour.
Pendant tout le reste de sa vie, de 58 à sa mort, Geneviève de Gaulle va vivre parmi ces gens qu'on appelle du quart monde, avec une facilité déconcertante parce que tout simplement, elle se vit comme eux, elle se sent comme eux, elle a connu ce que c'était la faim, elle a connu ce que c'était de sentir pas bon, et elle va donner sa notoriété, elle va donner ses relations pour permettre à ce monde de n'être plus invisible et d'accéder à la reconnaissance des autres. Donc, elle va mener ce combat jusqu'au vote de cette loi d'orientation contre la grande pauvreté et en faire le combat de toute une vie.
Geneviève de Gaulle devant une assemblée des lycéens, 1997. Cherchez au fond de vous-même ce que vous croyez être le meilleur et trouvez une raison pour que votre vie soit digne d'être vécue. Si vous le faites, votre vie aura un sens. Sinon, vous vous amuserez, vous aurez des distractions, comme dit Pascal, mais vous n'aurez pas l'honneur de vivre.
En conclusion de ce 9e épisode, retenez qu'après la guerre, comme pour bon nombre de résistants, le retour à la vie normale n'a pas été simple pour nos 4 femmes qui ont survécu. Si Mila Racine est morte en mars 1945, les 4 autres étaient à la fois habitées d'espoir collectif et animées d'ambition personnelle. Mais elles ont aussi affronté pas mal de désillusions. Et notamment, dans les premiers temps, un manque de reconnaissance de leur engagement résistant par la communauté nationale. Cela dit, les choses ont évolué à partir du milieu des années 1970. Et par exemple, dans un discours fort prononcé à Chartres en mai 1975, André Malraux redonne toute leur place aux femmes dans la résistance.
Les résistantes furent les joueuses d'un terrible jeu. Combattantes non parce qu'elles maniaient des armes, elles l'ont fait parfois, mais parce qu'elles étaient les volontaires d'une atroce agonie. Ce n'est pas le bruit qui fait la guerre, c'est la mort.
Après leur mort, quelles traces ont laissé nos 5 femmes résistantes dans nos mémoires du 21e siècle? C'est l'horizon du dernier épisode. Les résistantes, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Anne Brochet, Laure Calamy et Anna Mouglalis. Assistance éditoriale, Irène Menahem, assistée de Léonie Ferré. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Prochain épisode, Le courage en héritage. Les Résistantes est un podcast original de France Inter.